Alors, c'est bien. Bonsoir à tous. Tout le monde va bien ce soir? Je vais vous dire quelque chose. Je suis content d'avoir froid aux pieds et aux mains. Je reviens d'Afrique où j'ai vraiment souffert de la chaleur. Il y avait certains jours, il faisait 46 degrés à l'ombre. Vous me direz, mais pourquoi tu restais à l'ombre? Parce que voilà. Non, c'était formidable, mais c'était vraiment très chaud. Je soupirais après la fraîcheur de notre beau pays. Que Dieu bénisse. Dieu bénit aussi le Burkina Faso, on était vraiment bénis là-bas. On va se lever et on va lire Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment le verset préféré de Papa Osborne. Jésus-Christ est toujours le même. Et j'ai vu de mes yeux encore une fois comment il agit en réponse à la foi. Je reviens de presque 15 jours, ce n'était pas tout à fait 15 jours, au Burkina Faso, avec Nicolas Savadogo. Il avait vraiment bien préparé le chemin. Il m'a conduit dans beaucoup d'églises. Je ne pourrais même pas vous dire le nombre d'églises qu'on a visitées. On sortait d'une église pour prendre la voiture, pour foncer dans une autre église. Et quand on arrivait là, la foule était déjà en train de chanter depuis à peu près une heure, sinon plus. Alors on arrivait et on ouvrait les portes et le pasteur venait vers nous, on le voyait arriver, on entendait déjà les tam-tams, les chants, la poussière, là on n'entendait pas, on la sentait. D'ailleurs je tousse encore avec cette poussière, tous ceux qui sont venus au Burkina, ils savent, la poussière du Burkina Faso, la chaleur, tout était là comme chaque fois. Alors Nicolas discrètement me rappelait le nom du pasteur pour que je ne me trompe pas en le saluant. Ah, bonjour, frère Paul. Oui, voilà. Mais vous savez, on en voit tellement. Moi, je ne peux pas me souvenir de tous les noms. C'est en dehors de mes possibilités intellectuelles de pouvoir caser tous les noms de tous les gens que je connais. Alors, il nous faisait entrer dans l'église par la petite porte sur le côté. Vous savez que c'est des traditions chez eux. Un jour, je suis rentré par devant. Et Nicolas et le pasteur, il m'attendait dehors, il ne savait pas où j'allais passer. J'étais assis déjà sur l'estrade, il m'attendait dehors. Au bout d'un moment, ils sont rentrés. Ah, tu es là? Je dis, ben oui, tu es rentré par là. Ben oui, par là où tout le monde rentre. Dis, mais les pasteurs, ils doivent rentrer par là. Je ne sais pas que j'avais oublié, mais bon, voilà. Et puis, on avait comme ça à peu près 4-5 réunions par jour. Le soir, c'était toujours de l'évangélisation. Alors, les évangélisations, ça se passait devant les églises parce qu'il y avait trop de monde pour qu'on puisse faire ça dans les églises. Donc, re-tam-tam, re-chant, chorale. Je ne vais pas vous faire l'imitation des chorales, mais à moi tout seul, je pourrais. Parce qu'en fait, c'est des chorales, mais ils n'ont qu'un micro. Alors, on entend la voix d'une de ces sœurs qui chante. Mais vraiment, c'est terrible. Je n'aime pas ces chants. C'est terrible. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est trop haut, c'est trop criard, trop nasillard, trop haut. Ah, nous avons des beaux chants. Chacun sa culture, mais eux, ben alors, ils sont complètement. Ils peuvent jouer et chanter comme ça toute la nuit. Et finalement, eh bien, on me tend le micro. Alors, pour ceux qui sont venus en Afrique, vous savez comment ça se passe. Les pasteurs sont là, sur des chaises, tellement profondes que pour se lever de là, mon Dieu, il faut un treuil. Et hop, c'est parti. Vous savez, j'aime les réunions d'évangélisation. Là-bas, les diverses religions sont des religions cruelles, sont mêlées de sorcellerie, de ténèbres, et ça remplit les gens de peur, ça les tétanise dans le fatalisme, ce qui frôle le fanatisme en fait, c'est terrible, terrible. Alors, mes messages sont toujours directs, simples, axés sur l'amour de Jésus, la justice de Dieu, l'amour de Jésus. En fait, je vais droit au but, droit dans le cœur des gens avec ces messages-là. Et Nicolas est là, il traduit tout ce que je dis. Et il le fait si bien que parfois, des fois, au moment où j'oublie qu'il est là, c'est un petit peu comme mon ombre, il bouge comme moi, il a les mêmes intonations que moi, vraiment, il est formidable. C'est arrivé deux fois que le pasteur Alidou veuille absolument m'interpréter, donc voilà, il m'a interprété. Et puis une fois, c'était celui que j'appelle Stéphane, c'est Inoussa, parce qu'il s'appelle Inoussa, mais je n'arrivais pas à me rappeler de son nom, mais c'est... Je l'appelais Stéphane, mais il s'appelle Inoussa en réalité. Alors, il est très discret tout le temps, on n'entend presque pas. Mais alors, quand il interprète, il est aussi vivant que Nicolas, c'est formidable. Et à la fin de la foule, eh bien, je fais un appel Je parle au sujet de la repentance, je demande à la foule qui veut se repentir, qui veut recevoir le pardon de Dieu par Jésus-Christ. J'explique bien pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix, très simplement, mais très clairement. Et je demande qui veut se décider de croire que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité aussi, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le seul chemin du salut. Et je demande qui veut être au bénéfice de ce que Jésus a fait sur la croix. Il est venu pour sauver nos péchés, pour sauver nos péchés, nos maladies, nos misères. Et à chaque fois, c'est pareil. Alors des dizaines de mains, des centaines de mains se lèvent comme ça. C'est très drôle parce que c'est tout noir. Et puis tout d'un coup, on voit toutes ces paumes de mains qui se lèvent toutes blanches. Et ça fait très joli. Et alors, je conduis ces gens dans une prière de repentance. C'est très beau. Des fois, quand on a la place, on les fait venir devant et on prie pour eux en leur imposant les mains. Et puis, je demande à Dieu de les faire naître de nouveau. C'est magnifique. C'est des moments formidables. J'aime bien l'évangélisation. J'aime ça par-dessus tout. Mais, donc, voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut aussi faire de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses. Certaines personnes pleurent. Là, d'autres sont à genoux dans la rue. Et puis, un soir, on en a vu un. Se convertir, mais il était ce qu'on aurait dit quand Simone s'est convertie il y a 20 ans, là. Pareil, mais il pleurait dans un état, il était secoué, c'était extraordinaire. On a dû l'emmener dans un coin pour le calmer un peu, il nous disait, mais je suis mort, je réalise que je suis mort. Et voilà, bon, c'était magnifique, il a reçu Jésus, la vie. Alors ensuite, il y a toujours des membres d'église qui vont à la rencontre des nouveaux, et puis alors on conduit tout ce monde-là, on les conduit dans l'église, et puis là, il y a un pasteur qui les attend, qui les enseigne, qui prend leur adresse, qui prie avec eux, qui leur donne un Nouveau Testament, c'est très bien organisé. Et pendant ce temps-là, dehors, la foule chante, les tam-tams, la joie, la gratitude, la poussière, parce qu'il y en a qui se mettent à danser, et tu tousses, et moi je suis assis, complètement déshydraté, avec mon litre d'eau, comment ça s'appelle, Lafi, c'est l'eau Lafi, tiédas. Et puis, quand les nouveaux convertis reviennent, alors à ce moment-là, je me lève avec Nicolas et puis j'exhorte les gens au sujet de la guérison miraculeuse. Dans chaque réunion d'évangélisation, nous consacrons un moment pour prier pour les malades. Parce que Jésus faisait ça, il est venu pour que nos péchés soient pardonnés, mais aussi pour que nos maladies soient guéries. Et j'explique toujours ce qui va se passer. J'explique que il y a deux choses. Il y a l'esprit de la maladie c'est une vie. Et puis, je dis que je vais chasser cet esprit-là et que la maladie va mourir. C'est-à-dire que la maladie, le corps de la maladie se trouvera sans vie. Et que maintenant, le corps va être éliminé par les voies naturelles. Et j'explique qu'il y a deux sortes de dons. Dans 1 Corinthiens 12, il y a le don de guérison, le don de faire des guérisons, le don de faire des miracles. Et j'explique qu'il peut se passer une de ces deux choses, soit un miracle, c'est-à-dire c'est instantané, l'esprit, la vie de la maladie quitte le corps, et ensuite, et immédiatement, le corps aussi. Et là, c'est comme ça qu'on voit des aveugles qui retrouvent la vue instantanément, ou des sourds qui se mettent à entendre instantanément, parce que le tympan est reconstitué, ou instantanément, des choses extraordinaires comme ça. Ou alors, j'explique que si ce n'est pas un miracle, ce qui est toujours instantané, alors j'explique que c'est le don de guérison. La vie de la maladie est partie, et maintenant le corps est en train de se restaurer, ça peut prendre quelques instants. Alors je rappelle, je donne des témoignages, j'explique par exemple cet homme qui avait une cataracte, et qui... après la prière, avait toujours sa cataracte, et je lui ai expliqué ces choses, et je lui ai dit, voilà, ça peut venir dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans une heure, dans une semaine, mais il ne faut pas perdre la foi. Voyez-vous, beaucoup de gens perdent la foi entre le moment où on prie pour eux et le moment où il y a la guérison. S'il n'y a pas le miracle instantané, ils se disent, ah, ben, je n'ai pas été guéri. Mais bien sûr que tu as été guéri. Tu étais guéri il y a déjà 2000 ans sur la croix, et maintenant tu prends ta guérison, mais tu ne démords pas de là, parce que si tu démords de là, alors l'esprit revient, et alors, voilà, ben, ta maladie reprend vie. Mais si nous avons chassé l'esprit de maladie au nom de Jésus-Christ, il est obligé de sortir. La Bible dit qu'il est obligé de sortir. Alors, quand il est sorti, il ne faut pas, par un manque de foi, l'inviter à revenir. Il faut attendre simplement le temps que le corps élimine ce qui n'est pas bien, la grosseur ou les callosités dans les articulations, ou que sais-je, les choses qui ne vont pas bien. Et je raconte toujours ce témoignage de cet homme. Donc, au bout de 10 minutes, ses yeux ont commencé à couler, il y avait du jus blanc, et ça faisait même un peu mal. Et au bout de quelques instants, il pouvait voir parfaitement clair. Et il est rentré en conduisant la voiture de son ami. C'était magnifique. Je raconte ça pour fortifier la foi des gens. Je raconte aussi comment, à Tema, un petit village nord du Burkina, une femme qui marchait depuis 25 ans sur ses coudes et sur ses genoux, elle a été guérie, mais c'était une guérison. Nous avons passé là, nous avons prié pour les malades, elle était par terre, parce qu'elle marchait comme ça, à quatre pattes, comme un petit animal, et elle souffrait. Et moi, j'ai simplement posé ma main au nom de Jésus sur elle, comme sur tous les autres, il ne s'est rien passé. Et on l'a ramenée, quelques personnes l'ont ramenée dans sa case, et puis tout à coup, au milieu de la nuit, elle a senti comme un feu qui rentrait dans ses membres, elle s'est assise, elle s'est mise debout, et c'était la guérison qui s'opérait. Vous voyez ? Donc j'exhorte les gens à croire absolument dans la guérison divine. Il ne faut pas que, après la prière, s'ils ne ressentent rien, ils se disent « Oh bon, ben, ce n'est pas pour cette fois, c'est pour une autre fois. » Il faut qu'ils aient cette assurance et qu'ils sachent garder cette foi. Et alors là, nous devenons des spectateurs. Après la prière, nous sommes spectateurs. Nous regardons ce que Jésus fait. Et ça, c'est toujours le moment formidable, ce que Jésus fait. Alors certains sourds dans l'auditoire se mettent à hurler parce que d'un coup, ils entendent. Alors d'autres, c'est des aveugles qui voient et des membres paralysés qui retrouvent leur mobilité. Enfin, il se passe tout le temps quelque chose. Tout le temps, il se passe quelque chose. Et là, nous avons compté en 15 jours, en même pas 15 jours, je crois que c'était 12 jours ou 13 jours, nous avons compté 35 guérisons miraculeuses, sans compter les autres. Parce que les autres, ça, c'est venu peut-être, on était déjà partis. Mais déjà 35, c'est beaucoup. Et on a remercié Dieu. Alors certains diront, oui, c'est pas beaucoup par rapport aux milliers de personnes qui t'ont entendu prêcher. Oui, bon, ben, allez-y si vous faites mieux. Gloire à Dieu, c'est bien. Il faut le faire, il faut y aller. Et c'est vrai que moi, je suis réjoui déjà avec ça. Je dis merci Seigneur, parce que j'ai réussi à communiquer la foi au moins, et de voir des choses comme ça, que toute la gloire revienne à Dieu. Alors après, il y a un frère qui dirige la foule dans des chants, de louanges, retam-tam, redanse, repoussière. C'est magnifique, et Nicolas et moi, on en profite pour partir discrètement. On monte dans la voiture et on s'en va, parce que sinon, ça peut durer toute la nuit, il y en a qui veulent nous parler et tout, et nous on est fatigués, on a déjà 4-5 réunions dans le dos qu'on a eu dans la journée, on est exténués avec la chaleur et tout, il faut aussi un petit peu avoir un peu pitié de nous. Donc, après une nuit approximative dans la chaleur africaine, sans confort, sur un lit picot, sous une moustiquaire qui vous empêche en plus de respirer, parce que c'est vrai, Franck, ce que tu me disais, c'est vrai, ça empêche de respirer, il faudrait que je me trouve un autre moyen, parce que ce n'est pas possible. Et donc cette moustiquaire est à côté de moi, la sempiternelle bouteille d'eau tiédasse. Et bien, j'essaye de trouver le sommeil, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, on est très, sur le vif, quoi. Et vers 6h du matin, 6h30 du matin, le coq chante, l'âne se met à braire. Ça, c'est ça, hein, les ânes, ils ne disent pas des bêtises. Et puis alors, la chaleur est là. Immédiatement, on se rend compte qu'elle est là, hein, et qu'on est bien en Afrique, qu'on n'est pas dans notre merveilleux, beau pays, bien tempéré, correct. Là-bas, là, c'est incroyable. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais enfin, il faudrait que je demande à Dieu pourquoi c'est si déséquilibré, la température là-bas. Alors, il faut se lever, il faut se doucher, il faut manger mes céréales, avaler un escafé vite fait, et hop, ça repart pour une nouvelle journée d'aventure de foi. Et ça, c'est formidable. La journée, donc je vais dans une église, déjà, pour commencer pour enseigner. Parfois, on me demande de prier aussi pour des malades, donc ça peut encore durer un peu plus longtemps. Parfois, j'enseigne dans des écoles bibliques, parfois, on est simplement assis sous un arbre avec une quinzaine de personnes. Parfois, c'est des foules immenses. Les gens me connaissent, les gens me reconnaissent, ça devient rigolo, parce que ceux des villes en particulier m'ont vu à la télé maintenant. Alors, au stop, pasteur, c'est rigolo. Quelques-uns viennent pour me remercier pour un miracle qui a eu lieu il y a un an ou deux ans. La plupart du temps, je ne me souviens même pas d'eux. Ils sont un peu. Alors, je suis, gloire à Dieu, je suis content, merci Seigneur. Mais ils voient que je ne me souviens pas d'eux. Mais comment voulez-vous, ce n'est pas possible. Et j'attire toujours leur attention sur Jésus-Christ. C'est lui le faiseur de miracles. C'est Jésus le faiseur de miracles. Cette fois, j'y suis allé à peu près que 15 jours. Mais le programme était si chargé qu'il me semble que j'y suis resté un mois. J'ai vraiment de la peine à me remettre. J'ai des chocs thermiques, de temps en temps je grelotte, après je crève de chaud. C'est comme ça. Jésus, lui, vivait ça tous les jours pendant 3 ans et demi. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, maintenant il le vit dans nos corps. À l'époque, il le vivait dans son corps. Il devait aussi avoir mal aux pieds, il devait avoir chaud, il devait aussi avoir de l'eau tiédasse, il devait avoir tout ça, la poussière. 3 ans et demi non-stop. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, bon, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Parce qu'il y avait beaucoup d'allants, il y avait beaucoup de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est ce qui est écrit, hein, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ce jour-là, ces filles qui sont discrètement, elles ont pris une barque et ils se sont taillés de l'autre côté du lac. Mais les gens, il y en a qui les ont vus, qui les ont reconnus, ils ont couru, c'est ce que la Bible dit, hein. Ils ont tourné autour du lac, ils ont couru, ils ont été de l'autre côté, ils les devancèrent au lieu où ils se rendaient. Et là, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Et alors, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Vous trouvez ça dans Marc 6, 31 à 34. Jésus est toujours le même. La foule est toujours la même. Les besoins des gens sont toujours les mêmes. Jésus est toujours ému de compassion pour eux. Jésus vit dans nos cœurs. Est-ce que vous ressentez que Jésus a de la compassion pour ces gens? Si vous ne ressentez pas ça, je pense que c'est bizarre. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. Et vous devriez ressentir cette compassion pour ces foules, pour ces gens qui sont sans berger, sans brebis. Moi, je ressens, et c'est pourquoi j'y vais. Bon, je n'ai pas toujours été. Avant, je prêchais ici, à gauche, à droite. Mais maintenant, je retourne là-bas parce que c'est vraiment des brebis sans berger. Ici, vous entendez parler de Jésus partout, vous voyez des Bibles partout, vous entendez, il y a des émissions de radio, de télévision, on est gâté, surgâté. Là-bas, c'est vraiment la misère. Et j'irai pas autrement. J'irai pas autrement. Si Jésus vivait pas en moi, si Jésus me donnait pas de la compassion, j'irai pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais j'y vais parce que Jésus-Christ est toujours le même. Il est toujours le même, ému de compassion. Il est toujours le même. Avec des enseignements qui relèvent les gens de la poussière, des ténèbres où ils sont assis, il est toujours le même, étendant ses mains sur les malades, les guérissant, les bénissant, les encourageant. Il est toujours le même, rassurant ceux qui ont peur, nourrissant ceux qui ont faim. Il est toujours le même, il nourrit encore des foules. Je suis arrivé à Zan, village de la région de Boussé, et là j'ai été reçu par les anciens, il y a aussi pas mal de jeunes. Et quand je me suis retourné, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait plein de dames qui étaient assises derrière, parce que vous savez comment c'est là-bas, les femmes, elles sont toujours mises un peu de côté. Et ils étaient venus pour me remercier d'avoir nourri à peu près 897 personnes, c'est le chiffre qu'ils m'ont dit, de ce village pendant une année. Alors, j'aurais bien dit encore que ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais que c'est Jésus, Jésus qui vit dans mon cœur, et dans le cœur des siens, dans le cœur de tous ceux qui l'inspirent pour qu'ils donnent. C'est Jésus qui les a nourris. Mais il a fait plus que d'inspirer des gens. Il a aussi fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'en faisant les comptes, on s'aperçoit que 897 personnes ne pouvaient pas être nourries avec l'argent qu'on leur a donné. C'était pas suffisant. Il n'y avait pas de quoi nourrir 897 personnes pendant une année. C'était pas suffisant. Et je suis sûr que Jésus, discrètement, il a multiplié la nourriture comme il le faisait autrefois. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. De sorte que tous ont pu manger. Et Nicolas m'a dit, mais attends, t'as pas tout vu. Et il m'a emmené dans un endroit fermé à clé. Il reste encore 5 sacs de riz en trop. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Comme quand il avait multiplié les pains et les poissons, il en restait encore en trop. Notre Dieu est un Dieu qui fait toujours tout en surabondance. Jésus est vraiment toujours le même. Il est vraiment toujours le même. Alors ne vous découragez pas si votre miracle n'est pas encore arrivé. Il est en route. Ne vous découragez pas. Ne perdez pas la foi. Jésus vit en vous. Écoutez ce que son cœur dit à votre cœur. Faites ce qu'il vous dit. Aimez, pardonnez, bénissez, marchez sur la tête des serpents et des scorpions au nom de Jésus. C'est ça qu'il nous dit de faire, en fait. Hein, il n'est pas en train de nous ressasser des doctrines, quoi, que les doctrines... Vous voyez, il en faut aussi. Et si on ne vous reçoit pas quelque part, eh bien, allez ailleurs sans en faire tout un drame. Si on vous laisse tomber, bon, ben voilà, voilà, ben Jésus aussi, on l'a laissé tomber, on l'a même trahi. Le monde est grand et il y a assez de place dans le monde pour que Jésus qui vient en vous agisse par vous, quelque part, pour le bien des gens. Vous croyez ça? Moi, je crois absolument ça. Il est toujours le même. Il pourvoira aux besoins de ceux qui prennent leur mandat au sérieux. Beaucoup de gens viennent me dire, voilà, Dieu m'a appelé, mais je manque de moyens pour aller. Je trouve ça bizarre, moi. Je trouve ça bizarre. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne ce qu'il faut. Et Dieu ne nous a jamais trompés. Il nous a toujours donné ce qu'il fallait. Et on peut être reconnaissant. Mes frères et sœurs, je pense que ces gens-là qui pensent avoir reçu un appel de Dieu ont mal compris quelque chose. On a tous reçu un appel de Dieu pour le faire. Mais il faut commencer à le faire. Et ensuite, les besoins sont pourvus. C'est toujours la même chose. Dieu ne va pas vous donner avant que vous commenciez à faire. C'est toujours comme ça. Et il remplira les greniers de ceux qui veulent les remplir pour que Dieu soit le premier servi. C'est toujours ça la chose. Dieu ne remplit les greniers que de ceux qui veulent les remplir pour que Dieu soit le premier servi. En ce moment, le monde s'écroule. Nous, ça fait longtemps qu'on sait que ça doit arriver. On se demandait avec le temps, mais enfin bon, ça arrive ou ça n'arrive pas? Bon, non, maintenant je crois que c'est bien enclenché. Ça s'écroule de partout. Mais nous savons que Jésus demeure le même. Et c'est à lui que nous devons regarder si nous ne voulons pas couler avec le monde. Alors, rentrons dans sa joie, rentrons dans son avènement, rentrons là-dedans. Jésus est toujours le même, il a ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit « Je viens bientôt ». L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Nous pouvons dire « Viens Seigneur Jésus » parce que nous avons fait ce qu'il nous a demandé de faire. Et nous avons des projets pour faire encore d'autres choses en son nom. Mais s'il veut revenir avant, oui, oh mon Dieu, reviens. Amen. Mais nous ne disons pas « Seigneur, viens » parce qu'on en a marre, parce que c'est fatigant. Non, viens Seigneur Jésus parce que ça c'est la plus belle des choses qu'un chrétien peut vivre. C'est le retour de Jésus. Là, j'ai appris, Simone est venue me dire, que Mamie Blue est partie vers le Seigneur. Elle avait 87 ans, hein, 87 ans. Elle est partie vers le Seigneur cette nuit, enfin, en début de matinée. Eh bien, gloire à Dieu, elle s'était donnée au Seigneur. On avait prié avec elle la dernière fois qu'on avait été à l'hôpital. Hein, c'était avec, je crois, Stéphane et Simone. On avait été la trouver là-bas et on avait prié pour elle. Et puis, on avait remis le livre, l'oracle. Elle avait reçu Jésus-Christ. Bon, comme on n'a pas pu la baptiser, on va faire ce que la Bible dit. Hein, on va se faire baptiser pour elle, à sa place, comme il est écrit que nous pouvons le faire, puisqu'elle n'a pas eu le temps de se faire baptiser, elle était malade, et le Seigneur l'a repris. Voilà. Ben, gloire à Dieu, voyez, toutes choses concourent ensemble, c'est bien, et moi je suis dans la paix, quand on arrivera, je ne la reconnaîtrai pas, parce qu'elle sera toute jeune, la mamie Blue, hein. Moi j'ai toujours connu âgée, mais elle sera toute jeune, et puis c'est une bonne chose, c'est bien, on n'est pas attaché aux choses de la terre, la Bible dit, ne vous attachez pas ici-bas, attachez-vous aux choses d'en haut, et c'est ce que nous voulons faire, parce qu'ici-bas, tout ça, ça périt, ça va passer. Alors, profitons bien de ce que Dieu nous donne, réjouissons-nous avec ce qu'il nous donne, mais ne nous y attachons pas trop. Ayons quand même des buts plus élevés et plus spirituels. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu vous rendre ce petit témoignage ce soir de ce qui s'est passé là-bas, un peu en gros. J'ai vu aussi, oui, la savonnerie qui marche très très fort là-bas. Il y a maintenant 12 personnes qui travaillent. Ça veut dire que ça fait à peu près entre 50 et 60 personnes qui mangent tous les jours grâce aux machines que nous leur avons données. Amen, c'est bien, ça fait plaisir. Là, on est tranquille et tout, mais sans y penser, ben, quand même, ben, c'est bien, ça fait plaisir, ça réjouit le cœur de faire la volonté de Dieu. Et j'ai rencontré le directeur de la télé et puis je lui ai acheté des minutes de pub, on va faire de la pub pour le savon de l'église de Nicolas Savadogo pour qu'il se vende encore davantage. Alors, voilà, c'est bien. Je dis, mais vous, est-ce qu'on peut faire de la pub? Mais bien sûr, on peut faire de la pub. Alors, ce qu'on va faire, on va monter une pub ici. J'ai déjà filmé des choses là-bas avec le savon. Il est très bien, hein, le savon. Je me suis lavé les mains, je n'ai pas attrapé le bouton. Il est très, très bien. C'est du beurre de karité, mais vraiment, il y en a une masse là-dedans. Quand je pense qu'ici, en France, les gens payent très, très cher pour avoir un tout petit peu de beurre de karité. Là-bas, c'est... En veux-tu, en voilà, ils te versent ça là-dedans. Ben, ça pousse partout. Il y en a partout. Donc voilà, et c'est magnifique. Et donc ça, c'est aussi une bonne chose. J'ai pu aller visiter Bukhari aussi, Kwadima, à Fada. Et là-bas, c'est un garçon qu'on a connu il y a 8 ans. Il était simple apprenti et chez un vieux monsieur. Il n'avait même pas une machine à coudre à lui. Il était apprenti couturier. Et puis avec Nicolas, on a prophétisé sur sa vie, comme quoi il exploserait dans le pays. Que ça serait... Et c'est arrivé. Maintenant, il a, je ne sais plus si c'est 40... Il a une école avec 40 élèves. Il est directeur de cette école, fondateur. Et il a décroché un premier prix de je ne sais quoi de couture... au Burkina Faso, et voilà, donc c'est formidable pour lui. On a visité, on a pu aider aussi financièrement une jeune fille qui est orpheline de père et de mère. On a pu lui, j'ai pu lui donner de l'argent de votre part pour qu'elle puisse démarrer. Et puis, Boukari a dit, ben, moi, je fais aussi quelque chose, et il lui a offert une machine à coudre. C'est formidable, non? Lui qui était pauvre, qui n'avait rien, maintenant, c'est magnifique, ça fait plaisir. C'est beau de voir comment ça marche. D'ailleurs, il faut prier pour ce Boukari, parce que je l'ai invité, et j'ai laissé l'argent à Nicolas pour qu'il puisse lui payer le billet d'avion. Je l'ai invité pour qu'il vienne passer les fêtes de Noël et Nouvel An avec nous. Et je pense que ça le réjouira, on ira faire les boutiques. Et il verra un peu la haute couture, la couture, et on emmènera, je pense, avec ta sœur Olivier pour qu'il voie toutes ces belles choses à Paris. Paris, pour lui, c'est le bout du monde. Il n'est jamais sorti du bout du Burkina. C'est waouh, c'est quelque chose de fantastique. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir faire plaisir. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné ce soir pour, comme simple petit témoignage, mais pour fortifier la foi de mes frères et sœurs, réjouir leur cœur, leur montrer qu'ils sont utiles dans l'œuvre que tu m'as confiée, qu'ils sont avec moi, que c'est une équipe, que nous sommes ensemble, que les récompenses, ils les auront autant que moi. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu renouvelles les forces de chacun et de chacune, et tu nous bénis dans ta paix, et tu nous enrichis, Seigneur Jésus, de ta grâce encore, que nous en soyons bien conscients. Merci, Jésus. Amen.